Gloire au Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour notre rassemblement et nous le bénissons aussi pour notre rassemblement de ce matin. Une personne qui était là, notre culte d'adoration. Et puis, pendant le moment des chants, cette personne m'a expliqué, elle est sortie de cette maison de prière et elle pleurait en abondance. Elle était bouleversée quand on a chanté les chants, est allée dehors et puis elle est revenue. Dieu est celui qui visite notre cœur. Je me suis inquiété parfois de, et toujours de bien des jeunes. Et puis il y a quelque temps, une jeune fille était là. Et on m'avait parlé d'elle. Ça faisait des mois et des mois que nous étions à sa recherche. Et puis elle m'a dit, je viens, j'étais parti en voyage, et je lui dis, mais je te reconnais. Et je lui dis, écoute ton prénom. Alors elle m'a dit, le principal, c'est que vous ne souveniez plus de mon prénom, mais que vous me reconnaissiez, c'est bien. Nous avions une personne aussi, des jeunes que nous recherchions, et qui avait touché à bien des choses, et Dieu soit béni. Ce matin, j'ai eu l'occasion de la revoir, de revoir aussi un autre jeune, et nous remercions Dieu de tout notre cœur pour les personnes toutes nouvelles qui étaient là. Vous savez que nos réunions ont été un peu perturbées, toutes ces manifestations, depuis des semaines et des semaines, depuis aussi cette pénurie de carburant, et puis certains qui ont eu bien des épreuves, et nous sommes tenus les uns les autres devant le Seigneur dans la prière et dans le jeûne, et je remercie le Seigneur, nous le remercions de ce que notre inquiétude disparaît. L'apôtre Paul parlait aux Thessaloniciens de son inquiétude. Il avait peur d'avoir travaillé en vain et que le tentateur mette tout par terre ou essaie de mettre ébranlé. Mais Dieu soit béni, c'est lui qui est le maître des circonstances, c'est lui qui gère tout son ciel de gloire. Et nous remercions Dieu de tout notre cœur. Comme je disais, une jeune fille, Kétia, qui voulait prendre le baptême par immersion dans cette maison de prière, et je lui dis, il me semble que ça soit mieux pour toi, puisqu'elle était travaillée dans une ambassade ici, de son pays, et je lui disais, c'est mieux pour toi que tu retournes après ton stage dans ton église et que tu demandes à ton pasteur d'être baptisé par immersion. Et puis on m'a fait transmettre ses salutations. Elle a été baptisée avec ses deux sœurs et je crois qu'il y a eu beaucoup plus de joie que d'être baptisée à Nantes. Et nous bénissons Dieu de tout notre cœur pour l'action puissante de l'Esprit de Dieu. Communiquons les bonnes choses, comme je le disais, dans l'église d'Anceny, un garçon toxicomane, l'héroïne, l'addiction à l'alcool, au tabac. Et puis, l'autre fois, quand je suis repassé, j'ai pu entendre aussi qu'il était toujours à cette addiction, mais qu'il avait beaucoup diminué tant l'alcoolisme que dans la cigarette. mais que là, concernant l'héroïne, il avait été entièrement délivré et il a repris du travail et c'est dur pour lui, mais tout un travail de Dieu est en train de se faire. Nous bénissons notre Seigneur. Je disais aussi que notre frère M. Fourré était entré dans la gloire de notre Seigneur. Et vraiment, Dieu a fait un travail formidable. Et dans ce service funèbre, la maison de prière était remplie de personnes. Et c'était notre frère Noël Rolando qui présidait le chant. Il jouait, il avait le micro. Et quand il y a eu le chant, on a ressenti la visitation de Dieu qui s'est manifestée. Et au travers de ces services funèbres, nous avons vécu 40 minutes, quelque chose de très fort. Et nous voulons bénir Dieu de tout notre cœur. Notre travail n'est pas vain, ne sera jamais vain dans le Seigneur. Continuons donc à prier le Seigneur. Continuons à rechercher la face de Dieu dans le jeûne. Et nous savons que nous sommes et nous serons triomphant par la foi en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Et puis, encore un autre témoignage d'un jeune que l'on va baptiser par immersion. Il m'a expliqué son cheminement spirituel, étant, mais vous entendrez son témoignage, catholique. Et il voulait quelque chose de plus, mais la maman était en désaccord profond à ce qu'il vienne à l'Évangile. Et puis, par le moyen de cette jeune fille, Kétia, quand il y a eu l'héritage, le concert, alors donc la communication a marché avec Facebook, etc. Et c'est bien qu'il est venu. Et je vous assure que il y avait, les 400 chaises étaient pleines, mais quand j'ai entendu héritage commencer par mon Dieu plus près de toi, je me suis dit, ouf, c'est... Mais vous vous souvenez, c'est comme si j'étais eu l'impression, j'étais sur le devant, qu'on était là comme dans une veillée de prière. Il y avait la grâce de Dieu qui passait et repassait, et ce jeune homme... Bien sûr, quand il est reparti, il dit « Je voudrais quand même bien être salué, je voudrais bien connaître quelqu'un. » Et puis, quelqu'un s'est chargé de lui adresser la parole à la sortie, de communiquer. Il dit « Je peux pas partir sans... » Je vois bien qu'il était sorti, mais il dit « Je peux pas partir sans que quelqu'un... » Mais j'ai parlé avec quelqu'un. C'est formidable. C'est le travail de l'Esprit de Dieu. Et nous, nous réjouissons de tout notre cœur. Alors, nous sommes encouragés, très encouragés, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas des tentatives de découragement, de déstabilisation. Dieu ne travaille pas dans la déstabilisation de son peuple. Dieu ne travaille pas dans la déstabilisation de son Église. Il n'y en a qu'un seul, c'est l'ennemi de nos âmes, c'est le diable, il vous attaque, il m'attaque, il vous décourage, il cherche aussi à me décourager, parce qu'avec des gens découragés, on ne peut pas faire beaucoup. Vous vous souvenez de ce jeune David qui dit que personne ne s'est découragé, c'était un ado, que personne ne se décourage à cause de ce Goliath. Que le Seigneur nous donne sa grâce, sa bénédiction, et que nous continuions à le bénir de tout notre cœur. Ah, quelque chose aussi d'important. Il faut que je vous félicite pour votre témoignage. Vous êtes une lettre lue, connue, de toute la rue du docteur Pouzin-Malègue. Vous pouvez dire amen. Eh oui, quand même. parce que c'était la fête des voisins aujourd'hui. Donc, on était là, en petite ruelle, là où il y a les garages, pas loin d'ici. Et puis, nous étions invités. Nous sommes allés. C'était formidable. Et on a passé très, très bon moment. Et on a rendu un excellent témoignage de vous. Des jeunes couples, des couples, ont dit que nous étions des gens bien élevés. Nous rentrions avec la joie et que nous ressortions avec la joie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les voisins. Ce qui veut dire qu'ils observent. Des gens très respectueux. Ça fait plaisir. Hein ? Ça fait plaisir. Beaucoup de monde aussi. Ça fait plaisir. Beaucoup de monde. Ça fait plaisir. C'est extraordinaire. Et on remercie le Seigneur. Alors nous étions avec mon épouse là, avec les dames. Les messieurs étaient restés debout. Donc c'est un très long pour moi de rester debout. Et puis à la fin, je suis venu vers ces messieurs. Je leur ai dit, écoutez, la station debout est difficile pour moi. Mais je ne vous... Et tout de suite, des hommes jeunes et autres. Et tout de suite, je fus assailli de questions. Et nous avons dû rendre témoignage à la foi, témoignage de Jésus-Christ. Et j'ai dit, mais mon épouse... Oh, j'ai dit, mais attendez, messieurs, dames, il faut que je parte. Il est 15h45. À 16h, je dois être sur l'estrade. C'est formidable. C'est formidable, dites donc, hein. C'est magnifique, et on se réjouit, et on bénit le Seigneur. Donc, on a pu leur dire que nous avions une église arrosée à Anceny, et que nous avions bien des projets sur le centre-ville. Et c'est incroyable, il y a une dame qui nous connaît depuis que nous sommes là, elle dit, vous savez... J'ai une photo sur le journal. Vous étiez là avec l'un de vos adjoints. Vous étiez passé sur le journal. Je l'ai gardé toujours. Catholique pratiquante, qui officie, qui fait les services funèbres, etc. Les gens s'intéressent à nous. Hein. Les gens s'intéressent à nous. Mais c'est formidable qu'ils s'intéressent à nous. Il y a des gens qui s'intéressent dans le mauvais sens, mais là, ils s'intéressent à nous. C'est formidable. C'est magnifique. Moi, je suis content. Je suis un homme content. On est content. On est content. Voilà. Et quand on me dit que vous ressortez, vous entrez joyeux, vous repartez joyeux, un jour, on m'a expliqué, il y avait des sœurs qui viennent toujours à l'église, donc, vous savez, le tramway. Elle passe toujours aux mêmes heures, à pied. Il y a quelqu'un... Ah oui, je sais qui est-ce. Quelqu'un qui a suivi ces deux personnes pour voir où elles allaient. Parce qu'elles passaient toujours à la même heure, le dimanche. Et vu que c'était à l'église évangélique qu'elles venaient, me direz-vous comment j'ai su ça? Ben, tout simplement parce que un jour, un contrôleur... Des extincteurs, c'est lui-même qui les a suivis, c'est lui-même qui me l'a dit. On intéresse quand même, hein ? Où vont ces gens ? Où vont ces gens ? C'est extraordinaire, c'est magnifique. Je dis toutes ces choses pour vous encourager, pour vous fortifier. Et quand on prie, le Seigneur nous fait du bien. Amen. Alors, cet après-midi, au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, regarde. Et plutôt regarde, plutôt réfléchis et regarde. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10e, partir du verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui es-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain ? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va et toi, fais de même. Amen. » C'est le verset 30e que nous allons retenir, cet homme tomba. Le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 7e, verset 14e, dans une version, peut-être que vous avez la version La Colombe, c'est au jour du malheur, du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis, littéralement, regarde. Jésus parle d'un homme qui partit pour un voyage, quittant Jérusalem pour se rendre à Jéricho. Jéricho était connu pour cette route sanguinaire. Mais après tout, vous comme moi, quand nous nous déplaçons avec notre véhicule, l'accident n'est jamais pour nous, toujours pour les autres. Quand nous prenons l'avion, l'avion jamais ne va être à subir un crash, c'est toujours un autre avion. En un mot, c'est toujours pour les autres. Et cet homme savait, mais en réalité, il était loin de penser qu'il allait être victime. Et lors de son voyage, cet homme tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, qui le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Imaginez cet homme, la situation dans laquelle il se trouve. Cet homme tomba sans force, dans l'incapacité de se relever, de se sauver. Il est seul, abandonné, sans espoir, et prêt à mourir. Au jour du malheur, réfléchis. Et vous comme moi, quand l'épreuve nous a visités, quand le malheur nous a atteints, nous avons réfléchi. Et plus que réfléchi, quand on s'est retrouvé seul sur cette route, dans cette situation. Et puis ensuite, c'était aussi pour lui le moment de regarder. Et en réalité, regarder, que voit-il ? Il voit un homme religieux qui passe. Que voit-il encore ? Un autre homme religieux qui passe. Ce qui veut dire que les hommes religieux l'évitent. Sa religion ne lui apporte aucune aide, aucun secours. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre des brigands. Et jusqu'ici, cet homme n'avait besoin de personne. Mais à demi-mort, il a besoin des autres, il a besoin de quelqu'un. Dans le livre de la Genèse, il est écrit « L'homme est un loup pour l'homme ». Je vous ai raconté ce témoignage de notre fille qui avait 4 ans à cette époque et sa sœur, son aînée de 5 ans. Nous vivions en appartement et puis la petite, elle avait peur et elle disait « Il y a un loup dans la maison ». Et lui montrant toutes les pièces, je lui dis « Il n'y a pas de loup dans la maison ». Puis l'endroit est très, très désertique à cette époque. Nous sommes allés au centre commercial, puis au retour. La nuit était venue, très désertique. Elle me donnait la main et je lui dis « Mais est-ce que tu as peur ?» Elle m'a dit « Non, papa, j'ai pas peur. » Mais je lui dis « Mais qu'est-ce que c'est un loup pour toi ?» Et un loup pour toi, elle m'a dit « Papa, un loup, c'est un monsieur. » C'est ce que la Bible dit, l'homme est un loup pour l'homme. Alors, j'ai commencé à lui expliquer qu'en rentrant, c'est qu'en réalité, un loup, ce n'était pas un homme, mais c'était un chien loup. Mais c'est vrai que l'homme, parfois, est un loup pour l'homme. Quand on regarde la situation internationale, quand on regarde la situation nationale, quand on regarde la situation locale, est-ce que l'homme n'est pas un loup pour l'homme ? Et le monde dans lequel nous vivons est affaibli moralement, spirituellement, physiquement, et la Bible dit qu'avant le glorieux retour de Jésus-Christ, les derniers jours seront difficiles à cause des hommes qui vivront à ce moment-là. Personne ne sait les différents feux qui sont allumés de par le monde entier s'ils vont s'embraser. Il me semble entendre, après la Seconde Guerre mondiale, ceux qui étaient à la tête des États pouvoir dire « Nous voulons construire un monde sans haine, un monde sans difficulté, un monde sans guerre, un monde sans injustice. » Et nous pourrions multiplier les exemples. Il y a quelques jours, dans une nation, il y a eu un chef d'État qui était invité depuis 71 ans qu'il, cette nation n'était pas venue sur, dans cette nation. Et le chef d'État dit « La mort est tombée du ciel, il nous faut construire un monde sans armes nucléaires. » J'espère que son souhait sera exaucé, mais le livre de l'Apocalypse nous révèle qu'il y aura du feu, qu'il y aura des interventions nucléaires. Nous sommes dans une génération où nous sommes appelés à affronter de plus en plus de problèmes. Le Seigneur pouvait dire sur la terre, il y aura de l'angoisse. Les nations ne sauront que faire devant les événements. Un jour, l'avion venait d'atterrir et nous sommes levés après avec un monsieur, un homme d'affaires. Je lui dis, comment va votre pays ? Il me dit, écoutez, après la guerre civile, il n'y a plus qu'à se bexer, on ramasse l'argent à l'appel. Puis il me dit, vous savez, il faut une guerre mondiale pour nettoyer tout ce monde et repartir à zéro. Et je lui dis, monsieur, qu'est-ce qui vous prouve que dans cette guerre mondiale, vous n'allez pas mourir ? Qu'est-ce qui prouve ? On fait comme si on allait passer entre la pluie des bombes. On fait comme si on allait être épargné. Mais le prophète Ésaïe pouvait dire, en regardant la terre, on ne verra que ténèbres avec des alternatives d'angoisse et d'espérance. Au jour du malheur, ou plutôt au jour du bonheur, nous sommes invulnérables. Et nous pensons même que ceux qui étaient invulnérables et qui sont devenus vulnérables, c'est parce qu'ils s'y sont pris mal. On ne comprend pas. On se dit intérieurement, mais si c'est moi qui aurais dû traverser une telle épreuve, je m'en serais sorti d'une autre manière. Je ne comprends pas que telle personne ait pu sombrer dans la dépression nerveuse. Je ne comprends pas que telle personne ait pu tomber dans telle addiction. Oui, nous sommes invulnérables. Puis un jour, c'est la rencontre avec le brigand qui nous dépouille. Et là, nous réalisons notre vulnérabilité. Peut-être êtes-vous cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette jeune fille, cet homme, cet enfant. La solitude, l'addiction, la drogue et autres, passion, foyer brisé, peur de la mort, de l'enfer. On peut montrer tous ces brigands. Ils sont multiples. Et jusqu'à ce jour, vous n'avez besoin de personne. Mais là, dans votre situation, vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide. Et ce n'est pas pour vous seulement le temps de réfléchir, mais aussi de regarder. Regardez, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Ne t'inquiète pas, tu sais, un jour, si tu as un besoin, frappe à ma porte. Je serai toujours là pour t'accueillir. Je serai toujours là pour faire quelque chose. Et on vient, et on croit, parce qu'on a cru à la parole. Je ne peux rien faire pour vous. Je ne peux rien faire pour toi. Et on se dit, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est inadmissible. Un jour, un jeune me dit, je vais aller voir ma maman. Je vais faire tant de kilomètres. Il y a tant d'années que je ne l'ai pas vue. Il m'avait expliqué sa situation. Et je lui dis, écoute, je ne peux te faire que de t'encourager. Mais prépare-toi. Prépare-toi psychologiquement. Si la porte s'ouvre et qu'elle se referme sur toi sans que tu aies eu le temps de parler, tu vas briser ta vie. Fais attention. Donc, prépare-toi. La porte peut s'ouvrir et la porte peut se refermer. Et après avoir fait des centaines de kilomètres, la porte s'est ouverte, mais elle s'est aussitôt et aussi vite refermée. Je ne veux pas te voir. On est stupéfait de voir ce que nous sommes en train de vivre. Et ce n'est pas une accusation, loin de là, mais bien au contraire, c'est de regarder. De regarder. Jésus a dit, trouverai-je la foi sur la terre? Non pas trouverai-je la croyance. C'est André Malraux qui a dit « Le 21e siècle sera spirituel ou il ne le sera pas. » Moi, j'ai répondu intérieurement « Le 21e siècle sera spirituel. » Non pas que les gens reviendront à l'Église, mais chacun aura sa forme de spiritualité. Chacun vivra sa forme de spiritualité. Regardez l'athéisme, comment est en train de gagner les cœurs dans notre nation. Regardez combien les églises se vident de plus en plus. Regardez cette situation spirituelle. Et pourquoi Jésus dit-il une chose aussi importante? C'est qu'avant son glorieux retour en gloire, le monde aura sombré dans l'oubli de Dieu. Et nous avons été dépouillés de la foi en Dieu, de la foi en Jésus-Christ, de la foi dans le Saint-Esprit, de la foi en la parole de Dieu. La Bible nous dit que Saul de Tarse, il s'efforçait de détruire la foi de ceux qui l'avaient placé en Jésus-Christ. Détruire la foi. Il y a des gens qui sont déterminés à détruire la foi de celles et de ceux qui croient en Christ. Je me souviens un jour, je faisais une réunion de jeunesse. Il y avait une jeune fille qui était l'amie de cette jeune fille chrétienne. Pendant que je prêchais, j'ai eu cette révélation de Dieu qu'en réalité, la jeune fille amie de la jeune fille chrétienne n'était pas là pour se repentir ni pour se convertir, c'était d'amener la jeune fille à sortir de la foi, à sortir de l'Église. On veut détruire intérieurement. Quelle a été la volonté du diable dans la vie de Job ? C'était de lui retirer ce qu'il avait de plus précieux. Bien sûr, il a perdu tout son cheptel. Bien sûr, il a perdu tous ses enfants. C'est terrible de voir tous ses cercueils, ses enfants, belles-filles, gendres, peut-être petits-fils, et puis son épouse. Alors, je voudrais quand même dire pour Madame Job, je trouve qu'on a des fois un petit peu la langue dure à son égard. Parce qu'elle a dit ça à son mari. Mais était-elle une étrangère, Madame Job ? Qui avait mis tous ses enfants au monde ? Qui avait porté tous ses enfants dans son sein ? C'était une mère porteuse ? C'était Madame Job ? Sa souffrance n'était-elle pas autant ? Mais qu'est-ce que voulait faire le diable ? Il voulait retirer la foi de Job qu'il avait en son Dieu. Et ce qu'il y a de plus précieux en nous-mêmes, n'est-ce pas notre foi ? Bien sûr, chose précieuse, la cellule familiale, mais que c'est la foi quelque chose de plus précieux. La foi est précieuse pour notre vie. Parce que si l'on fait la différence entre celui qui ne connaît pas Dieu et celui qui connaît Dieu, les mêmes épreuves parfois sont les mêmes. Jésus n'a-t-il pas parlé de l'homme qui construit, qui écoute la parole de Jésus, qui bâtit l'un sur le roc et l'autre sur le sable, mais les épreuves de l'extérieur sont exactement les mêmes. Non ? Bien sûr qu'il y a une protection divine, mais vous comme moi, nous avons été secoués. Et qui peut dire on ne sera plus jamais secoués ? Oui, un jour on ne sera plus jamais secoués. C'est quand on sera dans la gloire éternelle. Donc ce qui est important, Saul de Tarse, essayez de détruire la foi de ceux qui l'avaient placé en Jésus-Christ, le ressuscité. Saul de Tarse ravageait l'église de Jésus-Christ, pénétrait dans les maisons en arrachant hommes et femmes et les jetant en prison. Dites-moi dans notre maison, est-ce qu'il n'y a pas des Saul de Tarse qui ont pénétré par des livres, par des cassettes, par toutes sortes de choses. Il m'est arrivé de le dire, certains couples malheureusement chrétiens se sont séparés, ont mis un terme à leur union, parce qu'ils ont permis l'un ou l'autre à salir leurs yeux par des scènes impudiques à la télévision. par des choses pornographiques, par des lectures malsaines, par toutes sortes de choses. Et je crois qu'il faut faire attention. Nous avons peut-être besoin de faire du nettoyage dans notre bureau, dans notre maison, dans notre bibliothèque. Nous avons besoin peut-être de faire du ménage. Un jour, on a retrouvé un pasteur, je crois que c'était un pasteur, dans son bureau, mort. Et quand on a regardé, c'était la morsure d'un serpent. Et puis, après le service funèbre, on est venu dans son bureau à nouveau. On a découvert entre les livres un serpent. Nous avons des serpents par des littératures occultes et autres qui vont pas nourrir notre foi, qui vont détruire notre foi. Elimas, le magicien, cherche à détourner de la foi le proconsul. À Samarie, les gens avaient trouvé un homme, Simon le magicien, qui avait une puissance. Et bien aimé, dans la foi, c'est un monde spirituel. Il nous faut beaucoup de discernement. Et puis, la philosophie, détourner la foi de bien des personnes. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Avec l'une de nos petites filles, j'aimais parler avec elle et elle aimait parler avec moi de philosophie. Et pendant tout le dîner, c'était la philosophie parfois. Voici ce que le professeur a dit sur la philosophie. Voici ce que le professeur a encore dit. Mais c'était formidable. Ça me permettait de pouvoir construire, de pouvoir bâtir, de montrer qu'en réalité, rien ne s'arrêtait à la tombe. Et quand l'apôtre Paul dit aux Colossiens, attention de ne pas devenir la proie de la philosophie, attention, quand on nous dit il n'y a pas de résurrection d'entre les morts, pas de jugement, pas de ciel, pas d'enfer, et qu'on croit dans toutes ces choses. En réalité, quand on est tombé, on a besoin de quelqu'un qui nous aide. Car si nous avons bâti seulement avec la religion, avec les religieux, avec la magie, la philosophie, ou même sur le plaisir, tout cela, ça sera d'aucun secours. L'apôtre Pierre dit ce que l'homme promet à l'homme, c'est la liberté. La liberté par l'homme, par les moyens de l'homme. Mais Pierre dit, ils promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Quand Christ est venu sur la terre, la Bible dit, nous étions sans force, sans aide. Mais Jésus-Christ est venu en personne dans le monde. La première chose que Dieu nous révèle, que Jésus nous révèle de la part de Dieu, c'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai été petit comme ces petits, j'ai grandi comme vous. Mais quand j'étais petit, nous n'avions pas le droit de parler à table. Oh, qu'on avait le droit d'écouter seulement les adultes. Mais parfois, il y avait une certaine conversation, parce que les villages n'étaient pas grands, et puis la ville n'était pas grande, et constamment, c'est le bon Dieu qui l'a puni. Ah, un tel est mort, c'est le bon Dieu qui l'a puni. Ah, tel bébé, c'est le bon Dieu qui l'a puni. Ah, c'est le bon Dieu qui l'a puni. Mais quand vous grandissez avec l'histoire du bon Dieu qui punit, la moindre épreuve qui vous arrive, vous dites c'est le bon Dieu qui me punit. Vous vous allez aller jusqu'à là. Moi, j'étais toujours le privilège d'être premier ou deuxième à l'école. Mais si j'avais eu une mauvaise note, j'aurais dit, c'est le bon Dieu qui m'a puni. Vous comprenez? Quand on ne voit que le bon Dieu qui vous punit, eh bien, moi, je l'ai retiré, ce bon Dieu. Parce que je ne crois pas dans ce Dieu. Je l'extrais de ma vie, ce Dieu qui punit. Parce que Jésus, dans une situation indescriptible, quand il vient sur la terre, il ose dire et il proclame « Dieu a tant aimé ». Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Jésus est venu pour vous aider. Il est venu pour nous aider, pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous pardonner de nos péchés, pour donner un sens à notre vie, pour nous donner la vie éternelle. La Bible dit que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Qui est mon prochain? Le docteur de la loi. Il a répondu, tu aimeras ton Dieu et aussi ton prochain comme toi-même. Mais qui est mon prochain? Pour moi étant juif, le prochain, eh bien c'est le juif. Ce n'est pas le païen. Le prochain, c'est que le juif. Qui est mon prochain? Le prochain, c'est le juif. Et Jésus donne cet enseignement. Oui, le prochain, mais qui est ce prochain qui est à terre? Ils l'ont passé outre. Ça ne devait pas être un juif, très certainement. Et peu importe si c'est un juif. Les relations entre Samaritains n'étaient pas très bonnes. Mais c'est un Samaritain qui va s'arrêter. Et s'occuper de quelqu'un, ça prend du temps. S'occuper de quelqu'un, il faut sortir le portefeuille. Voir ses plaies. Oh, on ne peut pas voir le sang. Alors je ne m'approche pas. Ah non, non. Cet homme s'arrête. Il regarde ses plaies. Et il le soigne. Il le soigne. Et il le met sur sa monture. Lui va aller à pied. Il va l'emmener à l'hôtellerie. Il va dire à l'hôtelier, mais ex-moine, je te paierai. Il manifeste son amour. Peut-être, et je termine, la religion ne vous a été d'aucune aide. Peut-être même un frère, une sœur, ou même le pasteur, est passé à côté de vous, sans s'arrêter, sans boire. Peut-être ce matin, je vous ai salué dans le hall d'entrée. Bonjour frère, bonjour sœur, ça va? Oui, oui, ça va. Peut-être ai-je manqué de discernement? Peut-être ça n'allait pas. Peut-être une blessure? Peut-être une parole maladroite? Peut-être quelque chose? On ne se connaît pas toujours. Des fois, on n'ouvre pas son cœur. Des fois, on me dit, mais pasteur, vous nous dites comment vous allez, mais vous, on ne vous demande jamais comment vous allez. Comment vous allez? Ben, si vous allez bien, je vais bien. Si vous allez bien, je vais bien. Mais si, par exemple, je voyais une blessure sur votre visage, je verrais votre œil tuméfié, je dirais, mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais c'est en passant, là, en venant à l'église, j'ai été renversé par un vélo, par une voiture. Je suis tombé. Ah, c'est quelque chose de visible. Mais nos plaies sont parfois invisibles. Nos blessures sont invisibles. Mais le Seigneur n'est jamais passé outre. Il ne s'est jamais, il s'est toujours arrêté. Vous vous souvenez de cet homme de Gadara, cet homme de la ville. Je ne sais s'il avait un costume, peu importe, une cravate. Mais c'était l'homme de la ville. Il allait à son travail. Il avait une femme, enfant. Il avait une famille. Et il est passé outre, devant cet homme qui était dans les cimetières, en train de crier, en train d'hurler. Peut-être serais-je passé outre. C'est un fou. C'est un possédé. Mais Jésus est allé directement vers lui. Et pour lui, il n'est pas passé outre. Il a délivré cet homme. Et quand cet homme a été dans son bon sens vêtu, les gens sont venus et disent à Jésus, mais il faut que tu partes. On vient de perdre 2000 pourceaux. On a perdu de l'argent. Et Jésus, quand on lui dit part, il remonte dans la barque. Mais cet homme lui dit, je veux aller avec toi. Jésus dit non. Ils m'ont mis dehors. C'est moi qui ajoute. Mais va dans ta maison. Retourne vers ta famille. Combien d'hommes, de femmes ont besoin d'être délivrés par Jésus pour retourner dans leur famille, pour voir leurs enfants, pour voir leurs femmes, pour voir leur époux, pour voir aussi leur famille. Jésus n'est jamais passé outre. Et il ne passera jamais outre parce qu'il est mort sur la croix, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est dans la gloire éternelle, parce qu'il a tout accompli. Il a tout accompli. Et Jésus, tu aimeras ton prochain. Et pour Jésus, on sait que c'était un juif, fils de Dieu. Mais Marie, t'es une juive. Les païens, on ne les regardait pas. Mais Jésus est allé vers les païens. Il s'est approché. Et Jésus, qui est le prochain? C'est le monde entier. Quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la langue, quelle que soit l'ethnie, que le Seigneur nous bénisse, nous donne sa grâce, nous donne sa bénédiction, sa bonté, sa miséricorde. Il vous tend sa main pour vous relever, pour fortifier votre cœur, pour guérir vos blessures, pour guérir votre pensée, pour vous régénérer, vous pardonner, vous transformer. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier.